Page 24, ça nous rassemble. C'est ici. Le phare du Pan, Iselbert et Gwil, les pétrifiés de l'île de Bréa. C'est au pied du phare du Pan, situé à l'extrémité de la pointe nord de l'île de Bréa, qu'Iselbert et Gwil, les deux fils de Mériadec, comte de Gwello, se sont transformés en énormes rochers. La légende, rapportée par Pierre-Jacques Elias dans son livre « Légende de la mer », raconte que pour obtenir rapidement l'héritage de leur père, les deux frères décidèrent de le tuer. Mériadec tenta alors de s'enfuir, mais ses fils le rattrapèrent au Pan et il fut assassiné. En précipitant son corps dans la mer, les deux hommes, frappés par une malédiction, furent pétrifiés sur place. Le sang du défunt aurait alors coloré en rouge les roches de granit. Tourtan narpan, Iselbers agwil, manium mein enes vriet. E ars tourtan narpan, a zo e pen ar bet norz en enes vriet, e oa bet troed Iselbers agwil, dao va meriadek, kon gwellu, e pejou kerek. Ervez ar vojen, e vel ma oa kontet gant per Jacques Elias en e leur mogenou breiz, e vije gret o sonj gant an dauvreur ze, lahan oza de blamant a gaud an erez buanor. Neuze e klaskez meriad ek teret kuit, met a tapet a lahet e oa gant e zau vab. A gint en ur dol e gor fer mor, a voe me lig e de kreiz tout a troet e mein. Dont a raje liwra gran i doar an od eus gwaad an den maro.
Rubrique Ça nous rassemble. Produits ménagers. Lessive made in Braise. À Bron, l'entreprise Sanital fabrique une lessive en poudre concentrée, au savon végétal et au parfum de lavande. Elle contient presque exclusivement des ingrédients d'origine naturelle. Spécialiste des produits d'entretien professionnel depuis 2006, la société propose des formules labellisées EcoCert Green Life sans conservateur, colorant ni huile essentielle. Conditionnée en sachet, la lessive est annoncée pour 5 ans de lavage et se montre efficace sur les tâches les plus tenaces. Plus d'infos, sanibio.bzh. /contact@sanibio.bzh. Palais revisité. La palotte pour jouer dehors et dedans. Ronan Pédron et Julien Le Floch, gérants d'Atout Sport Braise à Plélo, ont imaginé la palotte, un jeu de palais en silicone et sans planche. Celui-ci a l'immense avantage de se pratiquer en intérieur ou en extérieur. Ces palets sont lavables, y compris au lave-vaisselle, ne font aucun bruit et se jouent sur n'importe quelle surface avec les mêmes règles du jeu que le classique palet. Vous vivez en appartement ? Le voisinage vous remercie déjà et vous partagez des moments inoubliables avec vos proches. Plus d'infos atoutsport.fr/contact@atoutsport.com. Douceur d'abeille. Quand le sarrasin devient miel. Miel de Breton Gast à Corlay produit du miel, en particulier un miel de sarrasin fort goûteux qui fleure bon les Côtes d'Armor. Élaboré avec passion par Maud Jaouen et Roland Auffray, ce miel de fleurs de sarrasin, entre parenthèses blé noir, d'aspect foncé, a un goût prononcé très prisé des adeptes. Mais on peut aussi opter pour le miel de fleurs de ronces et trèfle blanc, ou encore le miel de fleurs de printemps ou d'été. Une gamme centre-bretonne à découvrir à la boutique à Corlay ou sur les marchés de Corlay le vendredi et de Saint-Brieuc les mercredis et samedis. Plus d'infos, mieldebretongast.fr. Bière locale, une histoire d'alchimie à Bréa. le juste dosage entre le malt et le houblon, une levure liquide vivante, un label bio et une moisson de prix internationaux en 2025 pour 4 de ces 5 bières artisanales. L'ancien pharmacien Sébastien Le Cerfs est devenu brasseur artisanal sur l'île de Bréa. Ces bières de Bréa sont vendues entre Lannion et Saint-Brieuc, principalement chez des cavistes et caves-bars. Plus d'infos, Brasserie artisanale de Bréa. Rubrique Ça nous rassemble. Atelier Lucille Viau. Un verre de terroir pour valoriser le patrimoine. Installé à Évron dans une ancienne porcherie transformée en laboratoire à bonnes idées, l'artiste chercheuse Lucille Viau façonne du verre à partir de ressources locales. Sédiments de la Rance, coquilles, goémons, cendres de fumaison de poissons, un univers où la matière se réinvente et révèle l'âme d'un territoire. C'est un lieu unique au croisement de l'artistique, du scientifique et de l'écologie. Un pôle de recherche et de production dédié au savoir-faire verrier et à sa transition, présente Lucille Viau. Avec son associée Clémence Berrier, elles ont transformé une friche agricole de 600 m² en un vaste espace de travail et d'accueil qui se décline en ateliers, laboratoires et salles d'exposition. Dans cette ancienne porcherie du hameau du Bois-Tison à Évron, l'artiste chercheuse façonne ses propres verres selon une méthodologie connue d'elle seule et baptisée géoverrerie. L'idée, c'est de concevoir mes propres matériaux à partir de ressources habituellement inexploitées pour créer des verres qui portent la mémoire et la couleur naturelle d'un territoire. Du verre soufflé à partir de coquillages et microalgues, du verre marbré à partir du goémon des abers, du verre couleur ambre à partir du sable et des coquilles d'escargot de l'Aveyron, une activité que Lucille Viau situe au croisement de la recherche scientifique et de l'artistique. Originaire de Pont-à-Mousson, une cité de l'est de la France au riche passé industriel, la jeune trentenaire a mené de brillantes études dans le domaine des arts appliqués et du design d'objets dans la prestigieuse école Boulle à Paris. Un projet de recherche l'amène à découvrir la Bretagne en 2014 pour s'initier à la valorisation des ressources halieutiques, coquilles, carapaces de crustacés, arêtes, issues de l'industrie de la pêche. Un travail qui a débouché sur deux pistes de valorisation, un plâtre de mer que j'ai pour l'instant mis de côté, et le verre marin. Une clientèle de prestige, une porte d'entrée pour son entreprise créée dès l'obtention de son diplôme en 2016, avec l'envie de maîtriser intégralement le cycle de vie et l'impact global des objets, en se situant à la fois dans une zone de production et de diffusion la plus locale possible. Ce modèle de circuit court, Lucille Viau le met en application avec sa dernière trouvaille en matière de géoverre. Le verre de la Rance, produit à partir des sédiments issus du dévasement de la Rance, en collaboration avec l'établissement public territorial de bassin Rance-Frémur, qui me fournit la matière première. Le résultat, un magnifique verre glace décliné en art de la table. Verre, assiette, carafe, bougeoir, mais aussi en sculpture et objet d'art, vendu sous la marque Ostraco directement à l'atelier, où toutes les pièces sont produites artisanalement selon un modèle le plus durable et économe possible ou via la boutique en ligne. Des créations mêlant l'artistique et l'utilitaire qui séduisent une clientèle comme le chef étoilé Hugo Rollinger, de quoi encourager Lucille Viau à poursuivre l'exploitation de ce dialogue entre matière et territoire. Des milliers de tonnes de sédiments sont draguées chaque année dans la Rance, rappelle-t-elle. Ce projet n'a bien sûr pas vocation à pouvoir tout valoriser, mais il doit participer à changer le regard sur ce type de ressources et à montrer qu'on peut les transformer en de très belles choses. Boutique en ligne et visite d'atelier sur réservation. https://atelierlucilleviau.com. Rubrique Ça nous rassemble. Char à voile à Erquy. Les jumeaux cartonnent. Un godu peut en cacher deux autres. Les jumeaux licenciés au centre nautique d'Erquy, Augustine et Arthur Godu, 19 ans, forment un duo de compétiteurs hors pair. Depuis l'âge de 7 ans, ces pros du kart à voile, l'une des disciplines du char à voile, dévorent des kilomètres de sable portés par le vent, la compétition et le plaisir de glisser toujours plus vite. D'une main, il et elle actionnent la baume qui donne la direction au planonnier, qui lui-même fait pivoter la roue avant. Une mécanique fine qui exige précision, anticipation et sang-froid. Adrénaline pour Arthur, vitesse pour Augustine, deux tempéraments, une même exigence de performance. La rapidité de la véloce effraie l'embarcation, dépourvu de frein, oscille entre 60 et 100 km/h, selon le vent et la technicité des pilotes. Autant dire que les sensations sont au rendez-vous, tout comme les performances des jeunes qui ont aligné de nombreux titres prestigieux au niveau national et international. Pour n'en citer qu'un, Arthur est champion du monde junior en kart à voile et Augustine, troisième féminine mondiale de la discipline. Leur prochain objectif est déjà en ligne de mire, se qualifier pour le championnat d'Europe 2026, prévu en novembre aux Pays-Bas. Si le vent leur est favorable, leur préparation actuelle pourrait bien les propulser une nouvelle fois vers les sommets. Canoë, kayak et cancer. À Dinan et Lannion depuis peu. Avec le club de canoë-kayak de la Rance et sa section Dragon Boat, entre parenthèses femmes, et depuis peu au Lannion canoë-kayak, entre parenthèses mixte, les personnes qui ont ou qui ont eu un cancer peuvent profiter des séances adaptées animées par un salarié diplômé. Pour cela, la Ligue contre le cancer finance l'inscription de la première année. Sortie en rivière sur le Léguer au départ de Lannion ou Tréguier ou sur la Rance depuis Lanvalet permettent de tester la pratique, de retrouver du lien social sans esprit de compétition mais avec l'esprit d'équipe. Plus d'infos, Dinan, dragonboat, @dinanrancekayak.fr ou téléphone 06 99 18 24 59. Pour Lannion, Lannion CK 22 10@gmail.com. Aérobox à Guingamp. Les femmes enfilent les gants. Emma Box Guingamp a lancé un cours de boxe 100% féminin destiné aux débutantes comme aux pratiquantes confirmées. Objectif: rendre la boxe accessible dans un cadre bienveillant. Cardio, techniques de boxe anglaise et travail du mental sont au menu de ces séances encadrées par Sandra Morset, 8 fois championne de boxe amateur. Le club offre un espace sécurisé qui favorise la confiance en soi, le dépassement personnel et la solidarité entre femmes. L'aérobox sans coup porté est réservé aux femmes à partir de 15 ans. Une quarantaine s'entraîne tous les mercredis soirs à la salle Pierre-Yvon Trémel. Plus d'infos, Instagram schlassma.box22 ou mabox22@gmail.com. Rubrique « Ça nous rassemble ». Patinage de vitesse sur glace. Giovanni Tributta en quête olympique. Ses titres de vice-champion du monde et de champion d'Europe de roller sur piste ne lui suffisaient pas. Le lantiquais Giovanni Tributta, 26 ans, rêvait des Jeux olympiques. Pour y accéder, il a troqué ses rollers contre les patins à glace. Paris réussit, il a décroché avec l'équipe de France de Team Poursuite une cinquième place aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Haut comme trois pommes et déjà sur des rollers. Giovanni Tributta n'avait que 3 ans et demi lorsqu'il a chaussé les patins pour la première fois. « J'étais hyperactif », se souvient-il. « Le roller m'a permis de canaliser mon énergie ». Jeune recrue du roller Sud Goello, le garçon débute la compétition avant même de souffler ses 5 bougies. « À l'époque, je m'entraînais sur les parkings », raconte-t-il. « Il n'y avait pas toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui ». En 2009, le jeune athlète rejoint le Guingamp Roller Skating et décroche dans la foulée son premier titre de champion de France. Il a tout juste 10 ans. Et poursuit sa progression avec pugnacité alors que se crée à Saint-Brieuc en 2013 le deuxième pôle espoir de patinage de vitesse de France. Bien entendu, Giovanni veut en être. Recruté, il y passe 16 années lycée en compagnie des meilleurs jeunes de sa discipline. Un parcours d'excellence qui le conduit jusqu'au pôle France à Nantes et vers ses plus beaux résultats. Après plusieurs titres de champion de France, le costa-armoricain décroche l'argent en 2024 au championnat du monde de roller 5 km, puis l'or au championnat d'Europe l'an dernier. De la piste à la glace, Giovanni Tributta n'entend pas s'arrêter là. Comme tout athlète de haut niveau, il rêve des Jeux olympiques. Son sport n'y étant pas représenté, il décide de se lancer sur la glace. À l'image de nombreux pratiquants du roller de vitesse, dont le malouin Alexis Contin. En finissant 4e des JO, en 2018, il nous a montré que les Bretons pouvaient performer en patinage de vitesse sur glace, note-t-il. Les deux sports sont très complémentaires. La route vers les JO, néanmoins, reste longue. La France ne dispose pas d'anneaux longue piste, ce qui impose de s'entraîner à l'étranger au prix de dépenses importantes. Heureusement, mes parents ont été là pour me soutenir, déclare Giovanni, qui se réjouit que son intégration en équipe de France ait changé la donne. En vue des JO, la fédération a débloqué des budgets et nos conditions de vie d'entraînement se sont beaucoup améliorées. À raison d'une préparation de 25 à 30 heures par semaine, les résultats sont là. Giovanni se qualifie pour les JO en décembre dernier et décroche dans la foulée une 10e place prometteuse au championnat d'Europe du 5000 mètres. 6 février 2026. L'émotion est grande lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Milan-Cortina. Giovanni Tributta n'est que le 2e costa-armoricain de l'histoire à participer aux Jeux d'hiver. Une fierté. J'espère que mon parcours va motiver d'autres jeunes à suivre mon chemin. Ça permet de montrer que même si on n'a pas en Bretagne toutes les infrastructures pour les sports d'hiver, on peut y arriver avec beaucoup de motivation et de travail. Pour preuve, le costa-armoricain rapporte d'Italie une belle 5e place en team poursuite. Course de vitesse par équipe avec notamment les Bretons Germain Deschamps et Mathieu Belloir. L'occasion aussi de prendre des repères pour la suite. Giovanni fait en effet partie de cette génération 2030 qui devrait atteindre son plein potentiel pour les prochains Jeux d'hiver en France. L'objectif est d'ores et déjà affiché. Cette fois, il ramènera la médaille. L'article est de Virginie Le Pape. Note en bas de page. Depuis 2023, les patineurs de vitesse sur glace évoluent sous l'égide de la Fédération française de roller et de skateboard, facilitant les passerelles entre les disciplines. Autre note, Pascal Briand, patineur de vitesse, a été qualifié au JO de Vancouver en 2010.
Page 30, rubrique « Ça nous rassemble ». Irrésistible monde d'artistes. Artistes, ouvrez vos ateliers. Pour tout artiste, ouvrir les portes de son atelier est une occasion inégalable de faire découvrir son univers, de partager son savoir-faire et de nouer des liens directs avec le public. C'est pourquoi le département organise les 6 et 7 novembre prochains l'opération Irrésistible monde d'artistes. C'est le moment de s'inscrire. Vous êtes artiste à titre professionnel dans les domaines des arts visuels ou de l'artisanat d'art? Le département vous invite à ouvrir les portes de votre atelier à l'occasion de l'opération Irrésistible monde d'artistes. Cette manifestation, conçue pour permettre au grand public de découvrir la création locale, devrait rassembler plusieurs centaines d'artistes. Les inscriptions sont ouvertes du 9 avril au 12 juin à toute personne pouvant justifier d'une activité artistique professionnelle et disposant d'un atelier situé en Côte d'Armor. Pas d'atelier? Vous pouvez participer à l'opération à titre d'artiste invité dans l'un des lieux participant à l'opération. Chacune bénéficiera ensuite d'une visibilité départementale et d'un appui en communication. Pour plus d'informations, se rendre sur le site côtedarmor.fr/irrésistible-monde-artiste. Page 30, rubrique « Ça nous rassemble », musique. L'orchestre des jeunes du Cresbraise crève l'écran. Nouveau projet pour les 60 musiciens et musiciennes de l'orchestre des jeunes du Cresbraise. 5 ans après sa création, la formation issue du programme DEMOS, initié par la Philharmonie de Paris, ce programme propose un apprentissage de la musique classique à des enfants de 7 à 12 ans, éloignés de cette pratique pour des raisons économiques, sociales ou géographiques. La formation issue du programme DEMOS élabore actuellement un spectacle inédit alliant musique et cinéma. Mis en œuvre par l'École de musique du Cresbraise, en partenariat avec l'Opéra de Rennes et l'association T-Film, des images en musique, mêlera des compositions inédites à des films muets, d'animation et documentaires. Une belle occasion pour les jeunes, dirigés par le chef d'orchestre aurélien Hazan Zielinski, d'explorer le lien entre images et narration musicale. Le collectif présentera sa création le 30 mai à l'Opéra de Rennes et le 28 juin aux rencontres du film documentaire de Mélionec en présence de l'actrice Anne Girouard, maîtresse de cérémonie. Pour plus d'informations, emdtkb.org/demos/. Page 30, rubrique « Ça nous rassemble », art de la mode et culture. Le coup de cœur du cri. Gast Fashion. Le petit écho de la mode à Châtel-Audrin-Ploigat est fier de son héritage et vous le prouve une nouvelle fois cette année avec le retour de l'Effet Mode, le seul festival du département à associer art de la mode et culture dans une proposition excitante et novatrice. Au cours de ces 2 jours de fête et de célébration de la création, spectacles chorégraphiés, jongles audacieuses, bal fashion participatif, défilés, projections documentaires, salons de la création et de nombreuses autres animations vous attendent. Notre coup de cœur, Stranded à la dérive, un spectacle de cirque contemporain entre danse et théâtre physique explorant les thèmes de la connexion, de l'équilibre et de la résilience concoctée par Zirkus Morsa. Pour plus d'informations, l'effet mode, samedi 30 et dimanche 31 mai, Châtel-Audrin-Plouagat, petitecho-mode.fr. Page 31, ça nous rassemble. Labopéra Saint-Brieuc-Bretagne. L'aventure collective qui dépoussière l'opéra. Rendre l'art lyrique accessible au plus grand nombre, telle est l'ambition du Labopéra Saint-Brieuc-Bretagne, créé en 2022 par le chef d'orchestre briochin Sébastien Taillard. Le projet collaboratif associe 150 artistes amateurs et professionnels et implique de nombreux jeunes dans la mise en scène de ces spectacles. L'ensemble donnera Carmen en juin prochain à la Passerelle. Depuis son lumineux salon ouvert sur la vallée de Guédic, Sylvie feuillette délicatement ses partitions de l'opéra Carmen. Depuis plusieurs semaines, la passionnée de musique travaille l'œuvre de Georges Bizet. En juin, elle chantera sur scène aux côtés de 80 choristes amateurs et d'une soixantaine de musiciens et solistes professionnels. Une expérience qu'elle a déjà vécue il y a 2 ans, pour la première édition de Labopéra. C'était inouï de se retrouver dans la flûte enchantée, alors que je ne pratiquais le chant que depuis 2 ans, se souvient-elle. Nous avons été entourés par des gens extrêmement bienveillants qui nous ont donné confiance en nous. Et quel choc lorsque nous avons répété pour la première fois avec l'orchestre. C'était fantastique. Ouvrir l'opéra au plus grand nombre. Galvanisée par ses émotions, Sylvie n'a pas hésité à renouveler l'aventure du Labopéra en 2026. Unique en Bretagne, le projet est né sous l'impulsion du chef d'orchestre Sébastien Taillard, originaire de Saint-Brieuc. C'est ici au conservatoire de Saint-Brieuc que j'ai appris la musique, retrace-t-il. J'avais envie de rendre au territoire un peu de ce qu'il m'a donné. Alors, en 2020, j'ai présenté la candidature de Saint-Brieuc au réseau national La Fabrique Opéra, qui cherchait à développer son concept d'opéra collaboratif sur de nouveaux territoires. L'objectif, ouvrir l'art lyrique au plus grand nombre et dépoussiérer son image élitiste et désuète. Ainsi donc, Saint-Brieuc devient, en 2022, l'une des 9 fabriques opéra de France. Reste désormais à monter un spectacle de A à Z en associant un maximum d'acteurs locaux. Sébastien Taillard, qui prend en charge la direction musicale, sollicite Zulia Magri et Christophe Dufay du Théâtre du Totem pour assurer la mise en scène. Il noue un partenariat avec le conservatoire et y puise parmi les élèves et les professeurs une partie des talents qui rejoindront le chœur amateur ou l'orchestre professionnel. En parallèle, les élèves des lycées briochins Jean Moulin, Fraissinet et Sacré-Cœur, filière mode et bois notamment, sont sollicités pour réaliser costumes et décors. D'autres jeunes participent à la communication, l'accueil ou la régie technique du spectacle. Dans les collèges, les élèves assistent aux auditions, aux répétitions, rencontrent les metteurs en scène. Peu à peu, le Labopéra devient un véritable projet de territoire et atteint son but, intéresser des publics dits « éloignés » à l'art lyrique. Carmen, une excellente porte d'entrée. Avril 2024. Après des mois de travail, la flûte enchantée est donnée à la salle de Robien. Le succès est à la hauteur des espérances et déjà, les esprits se tournent vers la prochaine édition. C'est décidé. En 2026, on jouera Carmen. Une excellente porte d'entrée pour découvrir l'opéra, parce que tout le monde en connaît quelques airs et qu'il est écrit en français, justifie Sébastien Taillard. Autour de lui, l'association Labopéra Saint-Brieuc-Bretagne s'est structurée, forte d'une nouvelle équipe présidée par Bruno Indal. De nouveaux partenaires et d'une belle émulation qui autorise à voir les choses en grand, Les 5, 6 et 7 juin, ce sont ainsi 150 artistes amateurs et professionnels qui interpréteront l'œuvre de Bizet au Théâtre de la Passerelle. En coulisses, plus de 250 personnes, souvent néophytes, auront contribué au spectacle. Signé de Virginie Lepape. Infos et billetterie, labopéra-bretagne.com. Pour soutenir le Labopéra Saint-Brieuc, Bretagne, se connecter sur helloasso.com/association/labopéra-bretagne. Une photographie sous laquelle il est écrit « En 2024, lors de la première édition du Labopéra, la magie du collectif avait transporté le public. L'ambition étant encore plus grande en 2026, l'association espère mobiliser de nouveaux partenaires pour consolider son projet. » Page 32, ça nous rassemble. Association Thiervrault. Les seniors font la causette en breton. Depuis septembre 2023, Mireille Arnoit anime chaque mois un atelier causerie en breton dans une trentaine de résidences seniors du Trégor et du Guélou. Le succès est tel qu'aucune séance ne termine à l'heure. La pluie. En ce jeudi après-midi de février, les gouttières du bourg de Logivy-Plougras chantent à tue-tête. Madou, un temps à rester chez soi. Ça tombe bien. C'est précisément ce que les résidents de l'EHPAD Saint-Émilion, qui jouxte l'église, ont prévu. On les imagine plongés dans leur sieste ou en pleine partie de triomino. Pas du tout. Dans la salle commune, à l'entrée, disons que ça baragouine, et plutôt bien d'ailleurs. Je ne parle pas le breton, mais je comprends tout ce qu'ils disent, chuchote Valérie, l'aide-soignante au dernier rang. Depuis une grosse demi-heure, la quinzaine de têtes blanches assises et concentrées n'a pas prononcé un mot de français, ou si peu. La faute à qui? À Mireille Arnoit, celle qui gesticule devant tout ce petit monde, donnant le change tantôt à l'un, tantôt à l'autre. L'ancienne enseignante bilingue, qui a exercé dans les écoles pendant 37 ans, est bien connue ici. Connue et attendue. Très attendue même. Chaque fois qu'une séance de causerie en breton est annoncée, les fauteuils et les déambulateurs se pressent. Ce jeudi, Mireille a opté pour un thème pour le moins savoureux, les crêpes, les crampous. Et avant de commencer à beurrer le bilic, qui s'impatiente derrière elle, l'animatrice alimente la conversation. À l'aide d'un petit diaporama qui lui sert de support, mais surtout, à l'aide des souvenirs qu'elle réveille au détour d'une phrase. Ah bah justement, voilà Fernand qui ravive sa mémoire. Il nous explique qu'autrefois, il fabriquait les spatules à crêpes avec du bois de hêtre, traduit Mireille. Yvette lui emboîte le pas. L'élégante octogénaire révèle le secret de sa recette qui en faisait tant saliver. Moitié farine de froment, moitié sarrasin. Hélène y va de son anecdote d'antan. Geneviève aussi. François s'y met à son tour. À l'instar de la pluie, on ne les arrête plus. J'ai gagné ma croûte quand je peux m'asseoir les écouter parler entre eux, aime à dire Mireille. Des éclats de rire et des larmes. Depuis septembre 2023, cet enfant de Poézal, qui a appris le breton de la campagne, sillonne les EHPAD du Trégor et du Guélo pour le compte de l'association Thiervrault, maison de la culture bretonne. Dans un périmètre qui s'étire entre Plouas, Plestin-les-Grèves et Belle-Île-en-Terre, elle anime des ateliers d'une heure, une fois par mois, dans une trentaine de structures pour personnes âgées. Objectif : faire causer les résidents et résidentes dans leur langue de cœur. Passer par le breton permet de libérer leurs paroles et leur procure du plaisir quand ils évoquent le passé, observe Mireille. L'école, les costumes, la place du cheval à la ferme. Au fil des saisons, des traditions ou de son inspiration, les thèmes varient. Faire ressurgir les souvenirs lointains provoque plein d'émotions. Il y a souvent de grands éclats de rire. Parfois aussi, les larmes montent. Au contact des aînés, Mireille apprend également des expressions. Le succès probant de ces ateliers, rendu possible grâce au soutien de la conférence des financeurs à laquelle prend part le département, vient confirmer son intime conviction. Chez les anciens, la pratique du breton peut être un remède à la solitude. Pour plus d'informations, Mireille Arnoit, animatrice à Thiervaux, Tréguer-Gouëlou, téléphone 06 61 50 39 87. Page 33. Ça nous rassemble. Médiation familiale. Une main tendue, baptisée le Guet. Créée en 1991, l'association Le Guet est le seul service de médiation familiale dans les Côtes d'Armor. Si la séparation des couples constitue la majorité de ces procédures, d'autres formes de médiation se multiplient. Disons-le d'emblée, toutes les familles sont concernées, absolument toutes. Et pourtant, rares sont celles qui ont recours à cette main tendue, par appréhension ou par ignorance. Neutre, impartiale et indépendante, cette main vient en aide à la résolution de conflits ou à la prise de décisions importantes dans la plus grande confidentialité qui soit. Créée à Saint-Brieuc en 1991, l'association Le Guet représente cette main. Dans les Côtes d'Armor, elle est la seule à proposer un service de médiation familiale. Au quotidien, 17 professionnels diplômés d'État dans le domaine se relaient pour accueillir, écouter et accompagner les citoyens qui souhaitent sortir d'une impasse. Au fil de son histoire, la structure s'est adaptée aux évolutions de la famille, à la diversité des situations d'une part et au flot toujours plus nourri des sollicitations d'autre part. Aujourd'hui, 8 lieux de permanence quadrillent le département, dont Rostrena et Caulnes, mis en place il y a moins de 2 ans. Entre 2024 et 2025, le nombre de nouvelles demandes de médiation familiale est passé de 555 à 641. D'année en année, la progression voisine les plus 10%. Un accompagnement sur mesure. La médiation lors d'une séparation de couple représente encore la majorité des cas, observe Aurélie Gendron, directrice du Guet. Mais d'autres demandes ont peu à peu émergé. Elles peuvent concerner la situation conjugale, la relation parent-adolescent, le rapport grands-parents-petits-enfants ou encore la perte d'autonomie d'un membre de la famille. Il nous arrive par exemple d'être sollicité dans le cadre d'une décision d'entrée en EHPAD ou d'une succession, poursuit la directrice. Frapper à la porte du Guet n'engage à rien. Le premier entretien d'information est gratuit et suffit parfois à éclaircir les choses. Durée du temps d'échange, fréquence des rencontres ou encore nombre de séances, tout s'organise au cas par cas. La démarche reste totalement volontaire et peut être interrompue à tout moment par les participants. En moyenne, la médiation s'étire sur 3 ou 4 séances d'environ 1h30 et chaque séance est espacée de 3 à 4 semaines de façon à expérimenter dans la vie de tous les jours les solutions évoquées durant la rencontre. Détail Stella Charles, médiatrice familiale à l'association. Un coût variable selon les ressources. Ouvert à tous, l'accompagnement présente un coût pour les familles. Celui-ci varie selon les ressources de chacun. À titre indicatif, pour une personne allocataire du RSA, la séance s'élève à 2 euros. Au maximum, elle plafonne à 131 €. Son bon fonctionnement, le GAY le doit aussi à ses multiples partenaires financiers, que sont le département, la CAF, le ministère de la Justice, la préfecture, des villes, des communautés de communes, comme la ville de Saint-Brieuc, Lannion, Dinan, Guingamp, Lannion-Trégor Communauté, Leffarmor Communauté, Dinan Agglomération, Communauté de communes du Crès-Brez ou Lamballe Terre et Mer. Ou encore la MSA. 35 ans après sa création, jamais l'association ne s'est avérée aussi indispensable. Les chiffres et le ressenti des médiateurs en attestent. Le GAY, symbole du passage qui permet de traverser le cours d'eau sans danger, constitue une aide précieuse, à condition de saisir cette main qui nous est tendue. Pour plus d'informations, Association Le GAY, 17 rue Parmentier à Saint-Brieuc, téléphone 02 96 33 53 68, site internet www.le-gue.com. Une photographie. Seule structure du département proposant un service de médiation familiale, l'association Le GAY est composée de 17 professionnels. Ici, en séance, Véronique Piriot, médiatrice diplômée d'État, fait partie de cette équipe.
Rubrique « Ça nous rassemble ». Histoire costa-armoricaine. L'économie littorale au féminin du 19e siècle aux années 1960. Femme de peine, femme de mère. Longtemps reléguées aux marges du récit historique, les femmes ont pourtant tenu à bout de bras l'économie littorale des Côtes d'Armor du 19e siècle aux années 1960. Sur l'estran, au champ, dans les usines, sur les quais ou à la tête des foyers, elles ont travaillé sans relâche, souvent sans statut ni reconnaissance. Un pan essentiel de cette histoire sort aujourd'hui de l'ombre grâce aux travaux de l'ethnologue Guy Prigent. Entre guillemets, le mot « histoire » revêt deux sens, ce qui est passé et le récit que l'on fait de ce qui s'est passé. De ce récit, les femmes étaient souvent absentes, analyse l'historienne Michel Perrault dans « Le temps des féminismes ». Pourtant, les femmes étaient partout, à la maison, au champ, à l'étable, aux foires aux bestiaux, dans les usines, au lavoir et au puits, sur l'estran, voire en mer. L'ethnologue et spécialiste des patrimoines littoraux costa-armoricains Guy Prigent s'attache aujourd'hui à remailler ce filet de l'histoire régionale dans un ouvrage à paraître. Car si jusqu'aux années 1960, période où les formations maritimes professionnalisantes s'ouvrent enfin aux femmes, la mer reste officiellement un domaine masculin. Les femmes n'ont pas attendu le feu vert législatif pour jouer un rôle central dans l'économie littorale. À eux, le large, à elles, l'estran, et bien davantage encore. Lorsque les hommes sont en mer, proches ou lointaines, ce sont elles qui tiennent la terre, cultivent, récoltent, gèrent le quotidien et la bourse, élèvent les enfants, soignent les personnes âgées et font tourner la maison. Du XIXe siècle aux années 1960, l'économie des côtes costa-armoricaines repose largement sur cette main-d'œuvre féminine, longtemps invisible. Entre guillemets, si l'économie littorale a pu se développer, c'est grâce à la place des femmes et à leur contribution aux activités agricoles comme maritimes, affirme Guy Prigent, fort de plus de 20 ans de collectage et d'environ 150 témoignages. Un constat tardif, presque un déclic, tant cette présence allait de soi, au point de ne pas être nommée. Bien qu'elle ne soit que rarement déclarée, les femmes travaillent partout, dans la pêche, l'agriculture, l'élevage, le maraîchage, le commerce. Leur charge de travail est considérable, frôlant souvent les 78 heures hebdomadaires, cumulant travail domestique et activités productives et responsabilités familiales. Les femmes travaillent partout. L'Estran n'est pas un simple paysage, c'est un garde-manger et une usine à ciel ouvert. Dans leur domaine de prédilection, la diversité des pratiques est frappante. Coureuses de grèves, pêcheuses de coques, de palourdes et de bigorneaux, ramasseuses de galets, tailleuses de pierres, coupeuses de joncs de mer sur la rance, parqueuses d'huîtres, tenancières de pêcheries, pêcheuses d'algues de rive ou ramasseuses de goémons à Pleubian. Autant de métiers, souvent saisonniers et ajoutés à bien d'autres activités qui fournissent un revenu indispensable, parfois les seules espèces sonnantes et trébuchantes du foyer. À terre encore, un salariat féminin émerge dès le milieu du XIXe siècle. Les usines de transformation de la sardine, comme celle de Locquémo, qui produisent les rennes de la Manche, emploient massivement des femmes. D'autres travaillent sur les quais, au halage, au débarquement des marchandises, dans les usines d'engrais à base d'algues, comme gardiennes de phare à terre. À Tréguier, elles sont doqueuses pour décharger les ardoises et les bois de charpente. À Pontrieux, elles réceptionnent la graine de lin. Elles réparent les filets, trient, sèchent, transforment, vendent, tiennent la comptabilité. Sans elles, ni pêche, ni conchyliculture ne fonctionneraient. Pourtant, leur travail restait pensé comme un simple prolongement des tâches domestiques, donc peu ou pas reconnues, mal rémunérées, rarement dotées d'un statut. En mer, la femme est le lest du diable. En mer, la femme est longtemps perçue comme un oiseau de mauvais augure, le lest du diable. L'ordonnance de Colbert en 1681 interdisait formellement leur embarquement. Certes, des exceptions existaient. Dans les huîtrières du Jaudy et du Trieux, on tolérait 2 femmes par bateau pour le tri, à condition qu'elles ne touchent ni à l'aviron ni à la drague. En 1874, la quasi-totalité des femmes recensées en mer étaient parentes d'inscrits maritimes. Il faudra attendre 1966 et la suppression de l'inscription maritime pour qu'elles puissent embarquer, et 1997 pour que le statut de conjointe collaboratrice soit enfin reconnu par la loi. Sur l'île de Bréa, ce sont les femmes qui bâtissent et entretiennent les murets de pierre sèche. En l'absence des hommes partis pour la grande pêche, elles dirigent les fermes, soignent le bétail et entretiennent le filet des veuves, ce droit de percevoir une part de pêche tant qu'elles maintiennent l'outil de travail de leur défunt mari. Cette division sexuée du travail, qualifiée de complémentaire, masque en réalité une hiérarchie persistante où le travail des hommes vaut plus que celui des femmes. L'histoire littorale, longtemps racontée au masculin, se révèle aujourd'hui dans toute son ampleur. Elle invite à regarder autrement les paysages côtiers, les ports, les grèves et les marchés, et à reconnaître enfin celles qui, dans l'ombre, ont tenu l'économie à bout de bras. En encadré de cet article, l'armatrice qui menait la barque, affublée de surnoms évocateurs comme la foudroyante ou la morue d'or, Maria Véry Carfontan, 1851-1927, n'avait de fait rien d'une douce épouse. Fille d'un armateur de Daouet, cette biniquaise s'impose dans un monde d'hommes à l'âge d'or de la grande pêche à la morue vers Terre-Neuve et l'Islande. C'est elle qui pousse son mari, Louis Véry, agent de commerce chez son père, négociant armateur, à se lancer dans l'aventure islandaise. Et très vite, c'est elle qui mène la barque. Recrutement des capitaines, gestion du matériel, suivi de la construction des goélettes et trois mâts, Maria est partout. Cette meneuse d'hommes traverse les épreuves, la maladie puis la mort de son mari, sans lâcher la barre, tout en élevant 5 enfants. Patronne exigeante mais protectrice, elle accorde une rente à vie aux veuves de marins disparus sur ses navires. Audacieuse jusqu'à la provocation, elle est aussi la première femme du département à posséder et conduire une automobile. Une pionnière, longtemps oubliée, aujourd'hui inhumée au cimetière marin de Binic.